Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette. La figure du Père Sestac dans l'iconographie locale et régionale, voici l'intervention d'Étienne Rousseau-Ploteau, franco-russe et basque d'adoption, professeur d'histoire-géographie au lycée Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz. Après une maîtrise d'histoire à l'université de Bordeaux, il a continué des études d'orgue et obtenu un premier prix du conservatoire de Bayonne. Il est titulaire des orgues historiques de Saint-André de Bayonne, offertes par Napoléon III. Il a également obtenu une maîtrise de théologie à l'université de Strasbourg et enseigne l'histoire de l'Église pour l'antenne de théologie des Pays de l'Adour. Il est également conférencier spécialisé dans la civilisation russe et la musicologie. La figure du Père Sestac dans l'iconographie locale et régionale, voici l'intervention d'Étienne Rousseau-Ploteau.
Merci Monsieur Barat et merci de m'accueillir et de m'écouter. Donc pour une communication qui n'est pas tout à fait dans le thème exact du colloque, puisque c'est société, religion et charité au XIXe siècle, moi je vais vous parler de religion sans doute, mais peu de charité, d'un certain côté social, et puis je vais aller en fait jusqu'en 2015 pour essayer d'explorer donc tout ce qui nous reste comme élément sur le Père Sestac, qu'il soit photographique ou aussi artistique. Et bon, j'avance. Voilà, en fait, j'ai fait un petit recensement grâce aussi aux sœurs du refuge qui ont déjà travaillé sur ce sujet au moment du procès de béatification. Et nous trouvons, alors il y a peut-être d'autres éléments qui seront peut-être découverts plus tard, puisque Père Sestac a essaimé quand même dans beaucoup de régions avec ses œuvres. Pour l'instant, voilà ce qui existe, qu'on peut retrouver. Bon, à Anglette, beaucoup d'éléments, bien sûr, essentiellement au refuge. Tout ça, c'est dans le musée du refuge, hein, ou dans l'église. À Bayonne, il y a deux représentations que je vais développer. En fait, il existe deux exemplaires du tableau représentant la visite de Napoléon III aux sœurs Bernardines. Et puis, dans les Landes, il y a une représentation aussi fort intéressante d'un peintre Rigaud. À Asparin, dans la chapelle des missionnaires, à Pau, une magnifique toile, hein, marouflée, alors que le patrimoine considère que c'est une fresque. En fait, il y a une seule fresque, c'est celle d'Asparin. Et puis, donc, Ustaritz, à Rossa, où étaient les servantes de Marie, le collège de Saint-Sébastien, et à Biarritz, une chose assez étonnante, un bas-relief dans l'église Sainte-Eugénie. Et enfin, les sœurs ont découvert donc dans leur collège de la région de Buenos Aires en Argentine, donc un vitrail représentant le Père Sestac. Je vais dire le Père Sestac plutôt que l'abbé Sestac, puisque c'est l'expression que l'on utilise le plus, hein, aujourd'hui. Donc première partie, les portraits contemporains. Vous allez voir qu'il y a à la fois des œuvres picturales et des photographies. L'œuvre première et la seule qui nous donne une image de la jeunesse du Père Sestac, c'est un tableau anonyme. Alors un courrier du Père Sestac lui-même parle des tableaux comme étant ceux d'un peintre bayonnais, mais on ne peut pas savoir qui a réalisé ce tableau, qui a été très réutilisé, en fait, vous le verrez. Le Père Sestac est là professeur de philosophie, on est en 1828, et donc il est professeur au petit séminaire de La Ressort. C'est un jeune vicaire, il a été ordonné seulement 3 ans avant, hein, il est professeur avec Michel Garikoitz, donc on le voit un petit peu... Enfin, je trouve qu'il a un côté très dynamique, hein, et aussi avec cette plume à la main qui révèle son côté intellectuel. C'est un homme qui a eu une certaine formation. Sa sœur a été portraiturée, vous voyez ici à droite, par le même artiste. Et donc c'est assez intéressant de voir que je n'ai pas le tableau qui est à gauche, je l'ai trouvé sur internet en fait. On voit sa sœur qui devient sœur mère vénérable dans l'œuvre du Père Sestac, et qui est donc avec exactement la même position que le tableau ancien de 1828. On voit donc qu'il y a eu une sorte de reprise, finalement, d'une attitude hein, de la jeune bourgeoise bayonnaise, d'un milieu assez aisé quand même, finalement, enfin pas très aisé, mais bourgeois, on peut le voir sur ce portrait-là. Voilà, j'aurais pu vous montrer d'ailleurs qu'il y a d'autres exemples de sœurs et frères comme ça, par exemple à Bordeaux, les Noailles, qui font de la Sainte Famille de Bordeaux, dont il y a deux tableaux à Martignac de Léon Bonnat, la sœur et le frère aussi, sur deux tableaux différents, c'est très intéressant. Si l'on passe aux photographies, les photographies, vous allez voir, sont beaucoup plus tardives, hein, puisque le père Sestac disparaît en 1868, et il semblerait que la plus ancienne des photographies soit celle-là, 1860, donc prise chez un photographe avec un décor, cette colonne, cette vierge, qui est celle en fait que l'on voit dans la chambre du père Sestac au refuge, dans le Château-Neuf, et une attitude très simple en fait, hein, une position très simple, même si le photographe a demandé que le père appuie la main sur la statue, son chapeau ecclésiastique sous le bras, un air assez fatigué, on le retrouvera souvent ce visage du père Sestac comme quelqu'un qui a œuvré beaucoup mais il n'est pas souriant, hein, et donc là c'est une photographie, ça, c'est pas l'interprétation d'un artiste. Alors en fait, ce tableau-là a servi beaucoup ensuite pour d'autres représentations. Moi, je le date de 1860, eu égard à son visage, à ses cheveux. Ici, une autre photographie, toutes ces photographies sont aux archives du refuge, où l'on voit le père Sestac, cette photographie aurait été prise à Madrid, d'après ce qu'il y a écrit derrière, mais on le revoit toujours avec son chapeau, sa soutane, hein, son col. Ici, il tient un crucifix très simple, il y a toujours la colonne dans la mise en scène. On voit aussi que cette photographie avait été encadrée dans un ovale, hein, et aujourd'hui, donc, elle fait figure. Il a l'air un peu plus détendu, mais c'est un homme qui a un visage dur, en fait. Ça fait un grand contraste avec le portrait de 1828, hein, du début de sa vie. Toujours ce visage, à peu près, ici, par un photographe bayonné qui s'appelait Balossier. Donc, on est en 1864, toujours une colonne, et là, un crucifix un peu plus sophistiqué. Mais donc, il a soit la Vierge, soit le crucifix à la main, le chapeau sous le bras. C'est vraiment un archétype, finalement, de la photographie officielle, en quelque sorte, prise dans un studio, avec un décor. Et alors, ici, cette photographie, d'après les sœurs, qui, je pense, ont lu ce qu'il y avait derrière, aurait été prise, le cliché aurait été pris à Paris par un photographe qui s'appelle Armand, mais je m'étonne de voir que la colonne et le crucifix sont exactement les mêmes. Donc là, il faudrait pousser un tout petit peu plus la recherche pour savoir comment ces clichés ont été pris, où exactement. Alors parce qu'il y a eu des retirages peut-être plus tard, hein, sur des plaques de verre à l'origine. Enfin, ce que vous voyez dans tous ces portraits-là, celui-là est très important aussi pour la suite de l'iconographie, c'est une attitude très simple, toujours cette main sur la colonne, toujours ce chapeau sous le bras, et donc pas d'allusion en fait, à part à sa dévotion au Christ crucifié et à la Vierge, on a vraiment l'archétype du père Sestac de son vivant. Donc là, moi, on date cette photo de 1867, il est mort un an plus tard. Voilà, donc là, je vous montre que les deux crucifix, les deux colonnes sont tout à fait semblables, même si on nous dit qu'un est à Paris, l'autre à Bayonne. Et ici, donc, l'année de sa mort, nous voyons un très beau tableau qui est au musée du Refuge, et qui donc a été réalisé par Hélène Feillé. Vous savez peut-être que les sœurs Feillé, Blanche et Hélène, étaient des parisiennes qui sont arrivées avec leur père au Pays Basque. L'une s'est mariée avec Enbut, et elles ont laissé un corpus d'œuvres extrêmement intéressant. Ce sont des peintres de l'époque romantique, on peut dire, avec de belles qualités, hein, picturales. Alors ce tableau, pour moi, c'est ce qui est le plus beau, hein, dans les représentations du père Sestac. C'est un grand format. Et je vous montre ici alors, un portrait dit de Hélène Feillé. En fait, il est signé Blanche Feillé, mais aujourd'hui, les spécialistes, dont M. Ripton, le conservateur du musée basque, pensent qu'en fait, c'est un autoportrait de Blanche Feillé. Et pour vous donner un peu l'idée de ce que représentaient ces deux sœurs, surtout Hélène, qui est la plus douée, je vous ai mis une gravure, hein, enfin plutôt une lithographie représentant le Pays Basque, hein, avec des cache-carottes. Donc c'est de très belles œuvres. Donc je pense que le portrait a été tiré en fait de la photographie, et peut-être que le portrait a été commandé après la mort du père Sestac. Voilà. Alors ce portrait, il a beaucoup de mérite parce que il signifie beaucoup. Si vous le regardez, bon, on a toujours, comme sur la photo, le prêtre avec son chapeau sous le bras. Cette main qui désigne ici la Vierge, hein, cette Vierge, oh, c'est celle-là qui est en fait dans la chambre du père Sestac au Château-Neuf. Et ce qui est très beau derrière, c'est ce chemin dans les sables, hein, qui nous indique la direction des fondations, avec l'océan en dernier plan, c'est magnifique, les dunes, les plantations de pins. Je vais vous montrer un peu en détail ici la tombe de sa sœur Élise, qui est donc à l'entrée du cimetière des Bernardines. Et ici, tout pour vous, ô ma mère, donc la sanctification et un esprit d'oblation, on peut dire, vis-à-vis de la Vierge Marie, qui fait partie complètement de la spiritualité du père Sestac. Et autre chose aussi, marqué peut-être, c'est la Légion d'honneur, ce qui est assez fascinant parce que sur ce tableau, sur cette soutane noire, on voit très bien cette Légion d'honneur qu'il avait reçue pour ses services agricoles. Voilà, je mets quelques détails ici, ce beau mouvement de la main. Donc, je ne suis pas sûr que ça ait été fait du vivant de Sestac, même je pense plutôt que c'est un travail d'atelier, hein, à partir de la photographie. Vous avez vu aussi ces fleurs, hein, dans les cystes, qui sont propres au pain, qui ont aussi un signifiant. Ce tableau est très complet en fait. On a un portrait du père, mais autour, on comprend beaucoup de choses sur l'œuvre. Et là, je vous montre ici, pour sortir un petit peu des portraits au musée, vous avez la Légion d'honneur qui a été attribuée donc par Napoléon III au directeur de la colonie agricole, comme on le voit ici sur le document, hein, de nomination de chevalier de la Légion d'honneur, hein, en 1865. Voilà, donc le père meurt et ensuite il y a assez peu de représentations connues, tout simplement parce qu'il a disparu, et c'est uniquement dans le cadre des Servantes de Marie qu'on continue à essayer de diffuser peut-être son œuvre, sa notion. Alors il y a une lithographie, et vous remarquez sur cette lithographie anonyme, enfin si, non, il y a le sculpteur qui s'appelle Bulan et qui a repris complètement les photographies, alors de façon assez extraordinaire, en utilisant à la fois la Vierge et le crucifix qui sont sur des photographies séparées. Voilà, et je me suis aperçu que si on date de cette lithographie de 1878, ça correspond à la première grande biographie du père Sestac, donc de Monseigneur Puyol, qui était la matrice de toutes les autres biographies, Vie du serviteur de Marie, et qui a donc été édité en 1878. Je pense que ça a un lien à la réalisation de la lithographie. Voilà, donc je vous montre les photos. Ici, une image pieuse, en fait. Donc là aussi, ça montre une diffusion de qui est le père Sestac auprès des personnes de dévotion. Donc, aux éditions Bouas, Lebel, qui devait éditer beaucoup d'éléments de ce genre. Ça rappelle beaucoup des portraits, des gravures du XVIIe, XVIIIe siècle. On a utilisé donc la première lithographie, avec dans un ovale, et puis la signature donc, qui est reproduite d'après un manuscrit, donc Sestac, pauvre serviteur de Marie, hein, PSM, c'est ainsi qu'il signait. Je remercie beaucoup les sœurs qui m'ont donné des indications sur ce genre d'éléments. Et puis, alors, toujours au musée du Refuge, un magnifique portrait qui en fait est au crayon velours. Alors comment nous devinons qu'il est au crayon velours? Parce qu'il est signé d'une part d'un certain Benazek. Je suis un peu étonné parce qu'il y a la date de 1900, mais en dessous il y a marqué BA, peut-être Bayonne. Et en fait ce Benazek, je fais une petite recherche pour m'apercevoir que c'était un Bordelais, Cour d'Albret au 99, qui, regardez, était artiste peintre portraitiste, spécialité d'agrandissement et de reproduction, grand porté au crayon velours d'après les photographies. Effectivement, on a vraiment l'impression qu'il y a eu une photographie. Et donc là, il a tout simplement sélectionné le haut. Ah, vous ne voyez peut-être pas aussi bien que moi, mais sur mon écran, ce sont des images plus lumineuses, hein, en fait. Donc il a sélectionné le visage, hein, ce portrait en buste, c'est exactement le même. Alors ma photographie, en fait, oui, il y a beaucoup de lumière ici. Ça. Voilà, et en 1908, donc l'année où le procès en béatification avance et où le Père Sestac obtient l'héroïcité des vertus et son rôle de vénérable. Voilà le tableau très célèbre, en fait, qui était d'ailleurs à l'origine de ma communication, parce que fréquentant la maison diocésaine de Bayonne, ce tableau est sous nos yeux tout le temps. Et vous voyez donc un tableau d'un peintre absolument inconnu. J'ai fait des recherches, mais peut-être pas assez approfondies, sur ce Te Senatori. Nous sommes à Rome. Non, ça, il paraît que ça ne marche pas. Marilyn.
Il est en panne, celui-là. On peut.
Voilà, on va essayer. Mais non, les miracles matériels ne marchent pas du tout, je pense. Hein. Enfin, j'espère. Donc, le Senatori, donc j'ai fait une petite coquille en dessous. C'est à Rome. Et en fait, il est probable que ce tableau a été commandé au moment du procès. Enfin, c'est ce que les sœurs qui ont cherché et déposé le dossier ont découvert. Donc, il est de 1908. Et c'est une synthèse, un petit peu, là aussi, de l'œuvre de Sestac. Alors, en réalité, il correspond à une visite qui a eu lieu hein, le 17 août 1854, la première visite de Napoléon III et d'Eugénie chez les Bernardines, ici, donc avec le grand portail, la chapelle que vous connaissez, qui existe toujours. Et par contre, alors c'est un peu inversé par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, ces fameuses cellules, ces maisons très fragiles. Et donc, le peintre a placé un peu à l'arrière, dans l'humilité, les servantes de Marie qui agissent. Hein, on a un peu l'impression d'avoir Marthe et Marie, en quelque sorte. Hein. Donc Marthe, ici, qui travaille beaucoup, et les contemplatives, c'est-à-dire Marie, à travers cette Bernardine, dont le modèle, paraît-il, est décédé un an plus tard, après avoir posé pour ce tableau. Et donc, un officier, un couple impérial, le père avec son chapeau, sa soutane, c'est très simple, qui offre un livre, probablement soit les constitutions des servantes de Marie, puisque c'est à cette occasion que Napoléon III lui a rendu visite après ses courriers, soit peut-être aussi un livre de spiritualité, ou encore un livre d'agriculture, ou encore aussi le syllabus qui permet d'apprendre à lire et à écrire. C'est une œuvre très intéressante, celle du Père Sestac. Voilà, il y a donc l'autre exemplaire, il y a deux exemplaires, celui de Notre-Dame du Refuge et celui de la maison diocésaine à Bayonne. Voilà, j'ai mis en valeur les trois protagonistes de gauche, hein, ici, séparés avec ces mouvements de mains, la Bernardine qui ne lève pas les yeux. Et ici, les trois personnalités du tableau, hein, sur les sept personnages. On voit donc que le Père Sestac regarde le couple et peut-être même plutôt Eugénie. En tout cas, Napoléon se concentre sur le Père Sestac et Eugénie, elle est fascinée par la Bernardine parce qu'en fait, une des raisons de la visite, c'était aussi. Elle était vraiment très attirée par cette vie étrange de ces femmes repenties qui vivaient dans les sables, dans des conditions très difficiles. Voilà. Et donc, en 1908, on peut commencer à représenter le Père Sestac réellement, puisqu'il est donc. Il y a eu le décret d'héroïcité des vertus, vous voyez, qui nous désigne les efforts réalisés par la personne en vue de devenir meilleure, d'accueillir la grâce de Dieu, de pratiquer la charité, d'être fidèle à l'Église. Si l'on consulte le droit canon, le dernier qui soit paru, j'ai pas eu le temps d'aller chercher les plus anciens, donc celui de 1983-84. Voilà ce que l'on dit sur les images, c'est assez intéressant. Canon 1187, il n'est permis de vénérer d'un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Église au catalogue des saints et des bienheureux. Donc, les images du Père Sestac, juste en 2015, ne sont pas des objets de vénération du tout. De toute façon, il ne doit pas y avoir vraiment de vénération des images dans le catholicisme, contrairement à l'orthodoxie. Hein, on est pas dans une vraie iconographie, c'est une fausse iconographie. Et regardez, la pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue. Toutefois, ces images seront exposées en nombre modéré, dans un ordre convenable pour ne pas susciter l'étonnement du peuple chrétien et afin de ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre. Et vous allez voir que ce canon récent ne correspond pas du tout à l'esprit du XXe siècle. Vous allez assister à des processions extraordinaires de saints, en particulier à l'époque de l'art déco. Je rappelle que donc dans le catholicisme, les représentations n'ont pas l'objet de culte, mais elles font partie d'un décor de gloire. Donc, pas de difficulté finalement pour représenter ce père qui n'était pas encore bien heureux, condition qu'on ne prie pas devant et qu'on ne demande pas d'intercéder, hein, c'est simplement vénérable. Alors, la plus ancienne représentation se trouve dans ce fameux séminaire qui est aujourd'hui le conservatoire et la Cité des Arts de Bayonne, qui a été donc inauguré en 1914, hein, et après il est resté un petit peu vide, comme vous en doutez, jusqu'aux années 20. Donc ce bâtiment existe toujours. Je me suis amusé à mettre la carte postale avec une photo actuelle de la chapelle qui n'a pas bougé et qui est devenue l'auditorium du conservatoire Maurice Ravel avec ses grandes fenêtres hein, de style renaissance tardive. Hein. Ça fait penser aux fenêtres de Saint-Étienne-du-Mont peut-être. Et l'intérieur, donc, avec. Là, je me suis amusé aussi à rajouter l'orgue qui est maintenant à Sainte-Marie-d'Anglette. C'est un montage photographique, parce que l'orgue a disparu. Enfin, il n'est plus dans ce séminaire, dans cette école de musique. Voilà des grands, donc, deux par deux, des saints qui sont exemplaires de ce que devaient peu à peu méditer les séminaristes. Donc, ces stacks, avec un regard très austère, a été associé ici avec. Saint-Michel Garicoitz, qui est encore que bien heureux ici. Même je me suis aperçu qu'en fait, il n'était pas. En réalité, vous allez voir, au-dessus, dans ces rosaces, vous avez tous les éléments de la liturgie. Philippe Fabas vous a parlé de ces vitraux. Hein. Voilà, donc si on agrandit un tout petit peu, donc Garicoitz avec l'étole, le crucifix et ces stacks. À partir de là, il faut dire aussi qu'ils ont tout le temps été mis en paire, en quelque sorte. Ce sont les deux grandes personnalités du 19e siècle basque, hein, donc on les associe énormément. Alors là, on peut constater aussi que le vitrail n'est pas inspiré par l'une des photographies. Hein. Même si le visage, lui, a un lien avec des photographies, la position ne correspond qu'à une invention, en fait. Et il a été représenté en chanoine. Alors, sur le vitrail de Garicoitz, en bas, vous avez donc des grandes figures, hein, par exemple pour ici la statue de Notre-Dame de Bétharram pour Garicoitz et Notre-Dame de Buglos pour le vénérable père Sestac, c'est écrit ici. Vous voyez qu'il y a la signature des frères Mauméjean. Alors actuellement, il y a une exposition à Pau et vous savez que le Festin vient de sortir un livre formidable sur cette entreprise. Il vient de sortir ce livre et qui décrit enfin la réalité de l'entreprise Mauméjean, née dans les Basses-Pyrénées, et essentiellement à Pau, et ensuite délocalisée, c'est la localisation à l'avance, à Madrid. Ils ont décoré 5000 églises. Hein. Voilà, et on est en 1921. Ce qui est très étonnant, c'est que la béatification de Michel Garicoitz, c'est 1923. Donc ils ont prévu, parce que, enfin je ne sais pas, c'est une énigme. Alors, vous voyez, bon, je vais avancer parce que autrement je serai un petit peu long. Je vous ai mis un texte que j'ai photographié dans l'exposition de Pau, hein, où Charles Mauméjean explique un peu son but. Hein. Ce sont des objets d'art absolument extraordinaires. Aujourd'hui, on les redécouvre enfin, on les analyse, on les répertorie. Hein. C'est un travail énorme qu'a fait l'historien qui s'appelle historien de l'art, Benoît Manoté. Voilà, un beau vitrail est éloquent par la richesse de sa palette, par la préciosité des nouveaux matériaux. Songez que nous avons créé des verres dont l'épaisseur multiforme dépasse de 6 à 10 fois l'épaisseur de ceux employés au XIIe et XIIIe siècle. Ainsi, nous avons donné aux irisations de la lumière une puissance décuplée, créant une sorte de vitrail en relief. Et effectivement, c'est une grande beauté, mais ce n'est pas de l'art très contemporain. C'est une œuvre des années 20, et on reste dans une perspective esthétique, en fait, passéiste. Mais en fait, comme vous le voyez ici sur cette photo des trois frères Mauméjean, hein, je me souviens surtout du nom de Charles et de Joseph, hein, le père s'appelant Louis, et Jules, dont le père s'appelait Jules. Et vous voyez là, ici, on est plutôt dans l'art déco ou dans l'art abstrait. Et c'était les ateliers d'Andail. Donc il est probable que ces vitraux aient été réalisés à Andail vers 1925. Là, ces photos sont prises en 1925. Quant au choix de la représentation du père Sestac, ici, c'est donc le chanoine de la cathédrale de Bayonne, ce qui est resté relativement peu, hein, après il était chanoine honoraire, mais on comprend ça que c'est pour des séminaristes, donc ils ont à viser un peu, et puis il les met tout à fait au fond de la chapelle à droite, ce qui sera souvent le cas, et vous pouvez remarquer aussi que les maîtres verriers, hein, ont donné l'impression qu'il y avait une auréole, c'est assez étonnant ça. Le visage est extrêmement austère, sévère, hein, bon, j'ai envie de dire ça rigole pas, mais c'est vrai, c'est étonnant. Hein. Voilà. En dessous, par contre, les vierges sont très belles. Hein, ici, avec la devise « In nomine sancte matris nostrae, ac domine mariae », hein, au nom de notre sainte mère et maîtresse Marie, comme le disait le père Sestac. Voilà. Le père bienheureux Garicoitz, qui ne l'était pas en 21, mais qui l'était en 23. Donc, lui, il a la Vierge béarnaise, hein, de Notre-Dame de Bétharram. Ici, c'est Notre-Dame de Buglos, la landaise, qui est donc le lieu de pèlerinage très important pour le père Sestac, mais Notre-Dame de Bétharram aussi, finalement. En face, vous avez Saint-Vincent-de-Paul, hein, vous avez aussi, donc là on passe dans les siècles antérieurs, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François-Xavier, vous avez aussi, non, ce sont là qui sont vraiment en face, au bout de la chapelle, à l'entrée de la chapelle, Saint-Jean-Marie Vianney, donc le modèle des prêtres du XXe siècle, hein, son culte commence à la fin du XIXe, et puis donc Saint-Jean de Mayorga, qu'on pourrait confondre avec Saint-François-Xavier, qui est illustré par une nef. Au début du XXe siècle, les sœurs fondent, en raison de tous les problèmes de loi sur les congrégations, elles fondent à Saint-Sébastien un collège, donc Notre-Dame Barrio de Ategoria, donc dans le quartier de Ategoria, qui existe toujours aujourd'hui, mais pas comme collège, enfin, qui a été très rénové. Et là, donc, il y a aussi une représentation du Père Sestac. Voilà la chapelle intérieure. Et un vitrail, là encore, un vitrail de la firme Mauméjean, hein, donc qui était hispano-française, hein. On est en 1927. Alors là, c'est très curieux parce que si vous comparez, on a l'impression qu'il a. Les Mauméjean se sont inspirés de Saint-Michel Garicoitz pour faire le Père Sestac. Hein, donc il varie un peu les positions suivant des codes, des canons hein, de ces époques. Les Servantes de Marie ont fondé aussi dans des villages, comme vous savez, c'était une des plus grandes œuvres, enfin, c'est ce qui me semble à la lecture des biographies de Sestac, ce travail pour des jeunes filles dans les campagnes, même campagnes isolées. Donc elles fondent à Rossa de 1856 à 1903, puis de 1930 à 1969. Saint-Martin d'Arançat est à l'entrée de la vallée de Baïgorry, dans la vallée de la Nive, hein, près du. Bon, je vais un peu plus vite, mais donc c'est une église neuve parce que c'est un village qui a été fondé à cause du chemin de fer qui s'est détaché du petit village d'Ossès à côté. Et voilà l'intérieur ancien, alors ça a complètement changé aujourd'hui. Et là, donc deux vitraux, sans doute des années 20, peut-être de Mauméjean. Il faudra faire des recherches peut-être plus précises. On voit à gauche donc, le vénérable Sestac et en face le bienheureux Michel Garicoitz. Vous voyez aussi toujours cette opposition entre celui qui a l'auréole et celui qui ne l'a pas, hein, Père Sestac, attendant. Et là, on est vraiment dans vous vous souvenez du dessin en crayon de velours, dans la photographie, c'est tout à fait repris de cette photographie. À Sainte-Eugénie, l'église voulue par l'impératrice Eugénie, qui avait d'abord été construite par l'architecte Hippolyte Durand, celui de Saint-André de Bayonne, a. Donc son premier projet, une toute petite chapelle néo-romane, a été remplacée par cette énorme église néo-gothique, ou même un peu renaissance par certains côtés, voulue par le célèbre Abélard, hein, une grande personnalité de la vie religieuse au Pays Basque et à Biarritz. Donc c'est construit en 1898-1903, et à l'intérieur, donc sous les grandes fenêtres du transept, vous avez deux grandes frises avec déjà ces fameuses processions de saints extraordinaires. Ce sont des bas-reliefs qui datent en fait de 1928. Donc, ils ont été réalisés par un sculpteur biarro qui s'appelait Gestas, sur lequel je ne sais pas grand-chose, et quelqu'un de beaucoup plus facile à repérer, Gabriel Rispal. Donc, voilà. Alors, quand on s'approche, est-ce que ça a besoin d'une restauration? C'est le Père Sestac qui a vraiment un visage un peu bizarre. On retrouve la position qu'il a au séminaire, donc en chanoine avec le camailleux et le chapelet. À sa gauche ici, hein, vous avez donc Michel Garicoitz, c'est le pape Pie IX qui rappelle le XIXe siècle. Il montre finalement, il bénit toute cette procession, cette généalogie de saints, donc les saints locaux, Saint Vincent de Paul, le modèle du prêtre Saint-Jean-Marie Vianney, etc. Et puis plus on s'avance, plus les saints sont anciens, avec Saint-Charlemagne qui serait représenté sous les traits de l'architecte Ernest Lacombe. Ça se faisait beaucoup. Voilà, je passe. En face, sur le transept ouest, vous avez sud. Ici, il est au nord, parce que l'église n'est pas bien orientée, hein, l'église Sainte-Eugénie. Donc vous avez les femmes, hein, toutes les saintes. Hein, et puis au portail, une autre sculpture de Gestas. Voilà. Alors, vous voyez que ça se répand. On est dans les années 20. Les années 20, c'est un moment où partout, au Pays Basque, on représente le Père Sestac. Voilà le style de Gabriel Rispal. Vous voyez d'autres bas-reliefs, on reconnaît bien son style. Mais là, je pense que ça a besoin d'une restauration. On sent que ça a été abîmé. Il faut dire que le climat est très difficile. Petite excursion hors des localités avec le collège Euskalechea de Yavayol, donc en Argentine, fondé en 1904. Alors voilà ce qu'on dit sur Wikipédia, hein, enfin non, c'est sur le site de ce collège, hein, a été fondé un collège, établissement d'éducation privée, hein, qui a eu un grand prestige, non seulement parce qu'il est à la Yavayol, mais aussi parce que donc il fait partie d'une grande ville et qu'il a eu un prestige national en Argentine. Voilà, donc je ne vais pas lire parce que je veux avancer. Ça reste aujourd'hui un lieu très important avec toujours un grand collège argentin. Et vous avez les racines basques qui sont, ça s'appelle de toute façon Euskal Etxea, donc c'est très lié toujours au Pays Basque. Et on a un vitrail, donc certainement, peut-être de Montméjean aussi, puisqu'ils ont beaucoup travaillé en Amérique du Sud. Alors on retrouve toujours ce fameux portrait au crayon, hein, où c'est quelques photographies. Le petit médaillon qui est en dessous, on voit que c'est marqué « Les servantes de Marie » à Anglette, mais la photographie sur Internet n'est pas très lisible. Il faudrait faire un voyage en Argentine pour pouvoir vérifier tout ça. Et voilà, au prochain colloque. Enfin, j'avance parce que le temps passe. Et voilà, une des plus extraordinaires représentations, mais de l'art, hein, religieux au Pays Basque, un monument classé, c'est la chapelle du Sacré-Cœur à Asparin. À Asparin, il y a une grande église néo-gothique, avec d'ailleurs un peintre intéressant, Élève de Bonnat, mais aussi cette merveilleuse chapelle. Alors extérieurement, elle a besoin de beaucoup de travaux, excepté peut-être le très beau portail, hein, de style art déco basque. Et c'est donc les missionnaires d'Asparin, c'était des missionnaires locaux. Ils ne partaient pas forcément à l'étranger. Ils étaient aussi en travail dans les villes et les villages de la région. C'est eux d'ailleurs qui ont contribué à fonder l'abbaye de Belloc. Voilà, l'architecte est Joseph Iriar, très très grand architecte de l'art déco sur la côte basque, avec beaucoup d'autres architectes, j'ai uniquement cité Tribou ici. Voilà l'inauguration par Monseigneur Gieur, hein, vous reconnaissez le portail, on est en 1928 au moment de l'inauguration, et l'intérieur ce sont des mosaïques de Montméjean et des vitraux de Montméjean, et dans la nef, deux extraordinaires processions de saints, dont tout à fait... au bout, mais quand même avant Saint-Antoine de Padoue, qui est tout à fait à droite de l'entrée de l'église. Donc Sestac, avec Michel Garicoitz, son cœur et son auréole. Et puis ici, le fondateur des Filles de la Croix, hein, André-Henri Fournet. Voilà, donc j'agrandis un petit peu. Et vous voyez, cette procession de saints, hein, cette catégorie extraordinaire de saints qui s'avance vers l'autel, alors du plus récent au plus ancien, donc de nouveau Saint-Vincent de Paul, hein, c'est marqué en basque en plus, hein, Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Alphonse Liguori et sa fameuse morale, hein, Saint-Jean-Marie Vianney qu'on a retrouvé beaucoup de fois, donc lié aux deux autres, et donc Fournet qui est le fondateur des Filles de la Croix, qui vivait au début du 19e siècle. Bon, je vous montre quelques belles images. Saint-Laurent, vous voyez qu'il y a tout ce mélange d'époques aussi qui est étonnant. Et puis, c'est une œuvre d'un certain Sauvage sur lequel on sait peu de choses. Ce peintre, pourtant, c'est un peintre de fresques prodigieux. En face, vous avez Saint-Michel. J'ai mis que quelques images, hein, parce que c'est le but. Et passons maintenant dans les lieux où nous nous trouvons, Notre-Dame du Refuge. Enfin, on ne voit pas le bâtiment où nous sommes, mais voilà le refuge, hein, avec le château neuf vu de par satellite, l'église, la chapelle, hein, de Notre-Dame du Refuge, que vous avez pas très loin d'ici, et dedans, donc, dans les deux transepts, de très beaux vitraux. Alors, ceux-là, on ne sait pas non plus s'ils sont de Montméjean, à mon avis, c'est le style, mais en fait, ça ne veut rien dire, parce que le style des vitraux, dans toutes ces régions, il y a beaucoup de maîtres verriers, et ils ont un peu tous les mêmes styles. Donc, les deux vitraux, celui, ça daterait à peu près des années 30, hein, et comme d'ailleurs les fresques d'Asparin. Voici ici, donc, le visage a été une sorte d'inverser la photographie ou le tableau de Feuillet. Vous voyez qu'il est tourné d'une autre façon, mais on voit bien qu'il a été copié. Cette énorme étole, hein, qui est très décorative ici. Et donc l'offrande par le père Sestac et une servante de Marie de leur œuvre, hein, on voit l'océan aussi derrière, à Notre-Dame de Bétarame. En face, donc, sur l'autre transept, une scène de la vie, on pourrait dire, ecclésiastique et, hein, de cette époque, avec Monseigneur Lacroix sur son trône, un escabeau sous les pieds, comme disent certains psaumes, hein, il est au-dessus, et humblement le Père Sestac qui présente les cinq œuvres qui ont été réalisées, donc la Bernardine en blanc, hein, toujours très très avec son scapulaire, les bras, une servante de Marie, on a l'impression qu'elle offre aussi une jeune pénitente de Marie en noir ici, et puis une ouvrière de Marie, c'est un groupe qui a disparu, qui est très proche, hein, mais en plus foncé des servantes de Marie, et la petite orpheline avec son ruban d'enfant de Marie. Voilà, deux très beaux vitraux, hein, très signifiants, et qui donc sont toujours à l'époque où le père est vénérable. Si l'on va à Pau, dans une église extraordinaire qui était celle des Ursulines, construite en 1873, et qui, au moment de... Donc, les religieuses ont été chassées en 1905, et le curé de Jurançon a décidé de la démonter et de la reconstruire à Jurançon, c'est pierre par pierre. Et alors, l'intérieur est décoré de vitraux de Montméjean, et dans le cœur, mais sur les côtés, hein, c'est-à-dire ici, et de l'autre en face, vous avez des triforiums aveugles, mais qui a été meublé avec des huiles, des toiles marouflées. Et ce sont des œuvres du grand peintre, premier Grand Prix de Rome, un peintre extrêmement important du Béarn, qui s'appelle René-Marie Castaing. Donc vous voyez divers saints, je me concentre surtout sur la représentation de ces stacks qui est sans auréole bien sûr, mais avec ses œuvres, hein, donc une servante de Marie, une bénédictine, une orpheline, très très belle œuvre. Si on regarde le carton ici, on voit aussi que la Bernardine a une pelle dans les mains et je trouve qu'il y a une espèce d'ascension. On retrouve aussi ici le grand paradis derrière, hein, dans une fenêtre, c'est une très belle œuvre. Hein. Mais on la voit pas si bien que ça parce que c'est haut, hein, parfois dans l'ombre, à visiter à Jurançon. Donc c'était le père Orcade qui avait absolument fabriqué tout le programme iconographique. Quant à Pontonx dans les Landes, que je n'ai pas pu aller visiter, je n'ai pas eu le temps, vous avez ici des toiles marouflées de Rigaud, hein, fils du peintre Gabriel Rigaud, donc Jean Rigaud, un Bordelais, mort en 1999, c'est faux cette date, excusez-moi, je crois que c'est... Ah si, si, c'est... Et, Pierre Gaston Rigaud est très connu comme peintre et son fils donc a fait aussi il a transformé d'anciennes fresques qui avaient sans doute été abîmées en 1888 en mettant d'un côté des vierges avec leur sanctuaire et de l'autre des saints locaux. Voilà, ici vous avez André Hubert Fourneau et Jeanne-Elisabeth Michier des Âges, les deux fondateurs des Filles de la Croix, qu'on retrouve souvent associés à ces stacks. Et là, je n'ai qu'une photo d'Internet très floue. Hein, vous avez Saint-Vincent de Paul, le grand saint landais. D'ailleurs, on n'est pas loin ni de Notre-Dame de Buglose, ni du berceau de Saint-Vincent. Et à gauche, donc, ces stacks en chanoine. Et là, le peintre qui commence à oublier les choses, il met une auréole. Hein. Voilà. Il est pas très précis dans... Voilà, il fait un travail. Enfin, proche de nous, à Ustaritz, une église qui a été classée monument historique en entier, qui date de 1911, comme on le voit ici sur la porte, hein, vous voyez avec le 500 et 400 en C, c'est assez curieux, 1911, belle église, alors qui est classée aussi parce qu'elle a des tribunes en fonte, extraordinaire, mais surtout des fresques de André Trébuchet, un peintre bayonnais, enfin d'Ustaritz, parce que sa maison est à Ustaritz, mais basque, extrêmement important, hein, qui a aussi fait le chemin de croix de Saint-André. Voilà. Et vous voyez cette théorie de saint aussi, ici en bas, alors très inspirée par Asparin, même si c'est de 1946, on est en fait dans un art post-art déco, en quelque sorte, mais modernisé, vous allez le voir, puisque ici, donc, aussi les noms en basque, comme à Asparin, vous avez aussi ces lisières extraordinaires, cet entrelac de la croix, de la couronne du Christ aux épines, et beaucoup de saints, hein, de saints locaux. Hein. On retrouve ici André Fournet, ici Saint-Vincent, bon, qui n'est pas un saint local, mais qui est le patron de l'église, et associé donc les deux créateurs des Filles de la Croix, Sainte-Jeanne, Bichet des Âges, Jeanne-Élisabeth, voilà, et puis le curé d'Ars, là on ne met pas Jean-Marie Vianney, on met déjà le curé d'Ars, hein, ça est une évolution, et le père Sestac qui se retrouve avec une chasuble complètement anachronique, et surtout tous ces personnages en espèce de lumière qui n'est pas vraiment une auréole, et là le peintre hésite, on le sent, et il met presque une auréole, mais il n'ose pas quand même, puisque le père Sestac est toujours vénérable, voilà, un grandissement, hein. Voilà, un visage qui est toujours... En face, vous avez Saint-Michel Garicoit, c'est exactement en face du père Sestac, Saint-Jean-Mayorga, que vous avez vu au séminaire, etc. Et nous arrivons à l'époque ultra-contemporaine, avec des vitraux de Charles Carrère, ce maître verrier anglois, qui a fait beaucoup d'œuvres dans notre région, à Saint-Esprit, dans beaucoup d'églises, et aussi pour le privé. Et là, pour moi, une des œuvres les plus fascinantes de cet exposé, parce que ce vitrail a été réfléchi par un mystique. Hein, il est extrêmement signifiant, un peu comme le tableau d'Hélène Feuillet, mais dans un autre genre, bien sûr. Donc, Carrère a pris le parti d'utiliser le tableau de 1828 pour le portrait. Il a mis un livre dans les mains qui est, comme le rappellent les sœurs, hein, qui pourrait être la Bible, ou bien les constitutions, ou bien n'importe quel autre livre ou son autobiographie qui montre ses fondations. Ici, un écu avec l'Ave Maria, la rose qui est le cœur hein, qui évoque avec les croix ainsi le cœur de souffrance de Marie, le vase de rose qui rappelle l'Italie de la Vierge, il y a beaucoup de vocabulaire, donc je l'ai mis un peu en plus grand ça, et des cistes des pins, fleur préférée d'Élise Sestac, voilà, la cathédrale de Bayonne avec la porte du Château Neuf, comme gaffeur la porte du ciel, moi je pense beaucoup à Gréco, là, donc, et les pins qui sont les dunes à travailler, les pins qui forment des voûtes, l'océan, le soleil qui, au Moyen-Âge, rappelez-vous, c'est le Christ et la lune, c'est la Vierge. Hein. Et en musique, c'est très intéressant parce que l'accord du Christ, c'est la quinte, comme celle de Jupiter, et la carte, qui est le renversement de la quinte, c'est la lune qui reflète le soleil. Tout ça a vraiment beaucoup de sens. Hein. Voilà, et on va encore mieux sur le dessin préparatoire. Je vous ai montré le carton préparatoire de Castin, on le voit très bien ici aussi. Ce vitrail est accompagné chez les Bernardines par une représentation d'Élise Sestac, hein, dans un petit musée sur Élise Sestac, où on voit le grand paradis. Voilà. Et enfin, la béatification arrivant, nous avons des nouvelles représentations avec le... Oh, qu'est-ce que j'ai mis Oui, j'ai mis un E, je ne sais pas pourquoi. Bon, Jean-François Simon nous représente l'abbé Sestac, c'est ce grand tableau qui est à la cathédrale. Et donc là, on quitte la terre, hein, en quelque sorte, même si les roches qui... On quitte la terre, on est dans le domaine iconographique de l'icône, quasiment. On reconnaît les photos, hein, les inspirations de Jean-François Simon. Il a choisi dans le tableau 1828 la plume, voilà, pour peut-être signifier les écrits du Père, ce qui nous laisse peut-être, hein, mais on n'est plus sur la terre du tout, hein, on n'est plus dans ses œuvres, on est déjà dans le paradis, et vous remarquez cette espèce de halo qui va vers le ciel. Voilà les dessins préparatoires que m'a envoyé Jean-François Simon. Donc là, on voit bien qu'il s'est servi du fameux portrait crayon velours. Et puis, à Notre-Dame du Refuge, il a fait aussi une icône, carrément. Alors vous voyez qu'il y a des feuilles d'or dans le tableau de voilà. Enfin, ce tableau que vous avez sous les yeux, qui est la dernière représentation du Père Sestac à droite, hein, donc d'Agnès Skadaka, qui est présente ici, voilà, qui est une artiste polonaise, et je trouve ça assez remarquable. On sent qu'elle n'a pas cherché vraiment à retrouver le Père Sestac d'après ses photographies, mais c'est une figure du Père Sestac presque dans son imaginaire, même si la soutane et ce don, ce regard, c'est évidemment assez abstrait tout ce qu'il y a ici, l'église derrière, hein, qui... Et la lumière, c'est la dernière représentation. Alors j'étais un petit peu vite parce que j'aurais eu beaucoup de choses à dire sur chaque élément, mais en fait j'ai fait le tableau intégral. Merci de m'avoir écouté.
La figure du Père Sestac dans l'iconographie locale et régionale. Vous venez de suivre l'intervention d'Étienne Rousseau-Ploto, professeur au lycée Maurice Ravel, titulaire d'une maîtrise de théologie de l'Université de Strasbourg, chargé de cours à l'Institut catholique de Paris, à l'antenne de théologie des Pays de l'Adour. Société, religion et charité au XIXe siècle. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac 1801-1868 par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville d'Anglette. 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge, Anglette. Mmh.